Il est 7h10 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'invité culture. Sur scène, elles sont 10. 10 femmes, la vingtaine, Ludivine, Anissa, Chirine, Dana, Abby, Inès, Lorraine, Maureen, Yasmina. Elles défilent une à une pour venir devant nous raconter un bout de leur vie, faire part d'une petite brimade, d'une inégalité qui leur a été faite en raison de leur origine, de leur nature de cheveux, de leur couleur de peau ou simplement de leur sexe. Cette pièce s'intitule « Flamme » avec le « L » entre parenthèses. Il a été créé en novembre 2016, il a tourné en France toute l'année. Il est en ce moment au Théâtre de la Tempête à Paris. Nous en avions parlé dans Les Envies du Week-end le 21 octobre dernier. Nous avions promis de recevoir le metteur en scène. Eh bien, il est là, Ahmed Madani. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission.
Je m'appelle Chirine. J'ai 21 ans. J'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. C'est mon père qui a choisi ce sport. Il s'inquiétait pour moi. Il avait peur que je me fasse violer dans la rue. Et il voulait que je puisse me défendre. Maintenant, je suis ceinture noire. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand un violeur s'approche de vous. Alors, il y a un coup de pied qui fait très mal si vous touchez les parties génitales. Hein. C'est un coup de pied qui part du bas vers le haut et remonte avec vigueur. La cuisse très ferme et la jambe la plus droite possible pour que la douleur soit la plus atroce possible. Il faut avoir aucune compassion pour les violeurs. Moi, je me suis jamais servi de ces coups. C'est la peur qui provoque la violence de l'autre. Si vous n'avez pas peur, personne ne vous fera de mal. Un jour, on était à table et j'ai dit à mon petit frère, lève-toi, débarrasse avec nous. Mon père a dit, et débarrasse pas. C'est pas à lui de débarrasser. Comment ça, c'est pas à lui de débarrasser? J'ai commencé à péter un plomb. Et il s'est levé pour me frapper. Et là, j'ai pété un plomb. Je lui ai manqué de respect. J'avais jamais manqué de respect à mon père. Et je suis partie dans une folie. Cette folie-là, c'était à cause de ma mère et de son histoire avec mon père. C'était leur folie. Et je lui ai dit, tu veux me frapper? Tu peux me frapper. Frappe-moi. Moi, j'ai pas peur de tes coups. Si pour toi être un homme, c'est de frapper une femme, alors frappe-moi. Alors je me suis mise en garde. Ben, la garde. Maintenant, papa, frappe-moi. Vas-y, papa. Frappe-moi. Je serrais mes poings. J'avais envie de le frapper. Mais il savait que j'avais vraiment pas peur. Alors il s'est rassis. Ensuite, je suis allée voir ma mère dans la cuisine. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est... T'as vu? Quand un homme a peur, il se rassoit. Mais oui, maman. Un homme, c'est un être humain comme les autres. Ce soir-là, je m'en suis voulu. J'avais jamais manqué de respect à mon père.
Ahmed Madani, ce qu'on vient d'entendre, c'est un bout de l'histoire de Chirine, l'une de ces 10 femmes qui s'expriment sur scène, que vous mettez en scène. Hein. Il ne s'agit pas seulement de venir témoigner face au public, il s'agit d'une mise en scène, mais précisément comment s'est passé le travail entre le moment où Chirine, par exemple, puisqu'on parle d'elle, est venue vous raconter, parler de cette histoire-là, de ce qu'elle avait vécu un soir avec son père, et ce qu'on voit sur scène.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le récit de Chirine, comme tous les autres récits, sont traversés d'une part d'événements qui sont sortis de leur vie, et puis d'autres récits qui viennent s'ajouter et qui permettent d'avoir, dans le fond, grâce à l'écriture, d'avoir de la distance et donc en même temps de mêler la fiction et la réalité. Donc en fait, les choses font que on est à la fois en train de raconter une histoire qui semble vraie, et en même temps pour l'interprète, puisqu'elle, elle sait trier le vrai du faux, et ça lui donne la possibilité de prendre de la distance sur ce récit et de l'incarner, mais comme une interprète dans le fond. Donc, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une histoire qui est inventée? Là, on laisse cette marge-là faire que, dans le fond, on laisse au spectateur et à la spectatrice la possibilité d'introduire sa part d'imagination et puis la possibilité de s'identifier au personnage qui est là. Alors évidemment, bon, alors là, le sous-texte, peut-être que il y a eu un conflit au sein de la famille, peut-être qu'il y a eu une volonté de cette jeune femme de résister à son père et de peut-être de traduire aussi des enjeux qui se passaient dans le couple parental, mais dans le fond, peut-être pas. Et c'est toute la force de cette aventure, c'est de partir finalement de récits qui me sont racontés au travers de grandes conversations, parce qu'en fait, on n'a pas tellement répété sur le plateau avant que les textes soient là. On a surtout eu des grands, énormes temps d'échanges, de paroles totalement libres sur des sujets les plus vastes possibles, les plus simples, les plus anodins parfois. Et moi, je revenais régulièrement dans le travail de création vers une ou vers une autre avec un texte dans lequel elle pouvait trouver des éléments qui lui permettaient de se reconnaître et en même temps des choses qui la surprenaient, qui l'étonnait et qui lui permettait d'avoir un plaisir de scène, en fait un plaisir de jouer et de raconter quelque chose au public qu'elle-même, au départ, ne connaissait pas forcément.
Amel Madani, je disais, cette pièce a été créée à l'automne 2016, ça fait un an qu'elle tourne. Elle est partie, dites-vous, de grandes conversations où ces jeunes femmes parlaient, se racontaient, et donc libéraient leurs paroles. En fait, c'est vous qui avez permis cette libération de la parole sur scène, parce qu'il y a vraiment un travail aussi, et pour elle, et pour le spectateur, et on y reviendra tout à l'heure, mais un travail presque de catharsis pour tout le monde. Donc, c'est très bizarre, finalement, quand on voit cette pièce aujourd'hui, sachant tout ce qui s'est passé ces derniers mois, qui continue de se passer, sachant aussi que cette pièce suscite partout où elle est jouée un véritable engouement. Comment réagissez-vous aujourd'hui précisément à cette espèce de confrontation, de rencontre, de choc avec l'actualité qu'on vit ?
Alors, en fait, c'est très étonnant parce que, enfin, moi j'ai toujours, dans mon travail d'auteur ou de metteur en scène, j'ai parfois le sentiment d'être de mon temps. Alors je suis un auteur d'aujourd'hui. Et il y a des choses qui sont là dans la société, qui sont présentes, mais qui sont pas apparentes. Et alors, je démarre cette réflexion il y a déjà 3 ans en fait. Le projet est lancé depuis 3 ans.
Avec un premier volet qui se présente comme une trilogie.
Qui démarrait en 2012.
Illumination avec
que des garçons. Et donc là, du coup, on posait la question de la place de cette jeunesse, de ces quartiers populaires, du point de vue des hommes. Et donc, j'engage la réflexion pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté des femmes, qui, la plupart du temps, sont silencieuses, ne prennent pas la parole, sont en retrait, en recul, ne sont pas forcément toujours dans les espaces publics, mais qui, en même temps, ont beaucoup de choses à dire pour peu qu'on prenne le temps de les écouter et de faire apparaître au grand jour cette parole. Bah, elle apparaît évidemment aussi aujourd'hui parce qu'on on rentre dans le monde du cinéma
et plus largement.
Voilà, plus largement et ça résonne en fait. Ça résonne parce que ce sont des préoccupations de notre temps d'aujourd'hui, tout simplement.
Toutes ces femmes-là sont issues de familles immigrées. Elles viennent toutes de quartiers populaires. Est-ce que Ahmed Madani, c'est un hasard ou bien c'était des critères pour qu'elles réussissent à passer l'audition ?
C'était vraiment des critères très importants. C'est une espèce de forme de discrimination, on peut dire ça. Moi, j'avais envie que ce soit des jeunes femmes et des jeunes hommes. Donc, le premier volet, c'était l'humain, c'était que des jeunes hommes. Et là, que des jeunes femmes qui vivent dans ces quartiers périphériques, qui ont des parents qui sont venus d'ailleurs, qui ont eu le courage de partir à l'aventure d'une certaine manière, et puis cette jeunesse qui est née ici, qui est par le droit du sol, est française, mais qui parfois a des troubles sur cette question de son identité, puisqu'il y a une histoire de famille, il y a un pays qui est loin, qui est celui des parents, et puis il y a un pays qui est ici, et il y a un contexte, il y a une langue, il y a des rapports sociaux qui sont de ce pays et de ce temps d'aujourd'hui. Et donc ces enfants, ils sont pris dans cette espèce de doute de savoir d'où ils viennent vraiment. Et ça m'intéresse énormément de poser ces questions, parce qu'on sait très bien que cette jeunesse, elle est là, et elle prépare l'avenir de la France de demain et l'avenir du monde. Parce que quand moi j'ai travaillé à l'île de la Réunion par exemple, je suis allé au Brésil et on voit bien que ce monde dans ces endroits-là, il est déjà en avance sur notre temps, c'est-à-dire un monde où il y aura un mélange des couleurs de peau, des langues, des cultures et qui va créer un autre monde. On est dans une, comment dire, elles sont mutantes ces jeunes femmes. Elles sont mutantes, elles ont des parties qui viennent d'un endroit, des parties d'un autre et elles propose une troisième voie.
Oui, je suis sensible et j'ai grandi dans un quartier sensible.
Et à la récréation, on jouait au cheval. C'était moi le cheval.
Mes parents viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est pas un pays. C'est une région ultra périphérique, européenne.
Les enfants trahissent toujours leurs parents. Moi, je veux avoir une vie à moi.
Moi, j'ai pas une histoire déchirante à vous raconter. Vous voyez le genre de truc je porte un lourd fardeau. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. La tragique histoire de ma mère. La tragique histoire de mon père.
Si pour toi être un homme c'est de frapper une femme, alors frappe-moi.
Mais ma mère, elle me poussait toujours à l'école. Inès, premier, moi, je veux que mes enfants aillent à l'école.
Mon père m'a saoulé avec Barry White.
Quand tu habites au Val-Fouré et que tu es une fille, tu dois te battre sans cesse. Un jour, j'en ai eu marre de me battre et je me suis enfuie de la maison.
Le jour où mon père a découvert la vérité,
le veleur aura très mal, il ne pourra plus respirer.
Télégonos, Latinos, Agrios, Cassiphonés, Nosinos, Nosiptos, etc.
C'est un prénom caché.
Il a dû se marier avec une gaouria. Oui, une française. Il t'a trahi.
Téléphone. Maison.
Hey,
Amel Madani, est-ce que vous vous souvenez, dans cette année de tournée où vraiment la pièce a été un peu partout, des moments les plus marquants pour vous, pour ces filles, devant le public?
Il y a de nombreux moments. Par exemple, dans de nombreux théâtres, il y a une volonté de prise de parole, d'échange, suite à la représentation. Et il est arrivé que, par exemple, parfois, on se retrouve dans un théâtre où on a l'impression que le spectacle ne passe pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune réaction dans la salle. Bon, alors les filles donnent leur représentation et elles sont un peu inquiètes. Et donc, il y a une rencontre à la fin du spectacle. Et là, les trois quarts de la salle restent dans la salle. Et le débat s'échange, et c'est très puissant ce qui se passe. Parce qu'en fait, dans cette représentation-là, il y avait plutôt une écoute, une attention, où les paroles de chacune d'entre elles étaient bues par le public. Et puis, dans d'autres endroits, c'est une espèce de puissance à la fin de la représentation où la salle se dresse, une standing ovation très forte. On a joué par exemple une série de représentations au Grand Thé à Nantes où on a répété le spectacle et c'était incroyable parce que c'est une ville extrêmement ouverte et au fur et à mesure qu'on donnait les représentations, le bouche à oreille a fonctionné au point que les dernières représentations, la salle savait ce qui se disait à la fin du spectacle et même avant que le spectacle soit achevé, les gens étaient déjà debout et en train d'encourager les actrices d'être dans l'émotion avec elle. Et c'est vrai que c'est extraordinaire cet échange qu'il y a avec les spectateurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient vivants dans les quartiers populaires ou au contraire des bobos, etc. Et c'est merveilleux parce qu'on a l'impression qu'il y a une parole qui s'échange au-delà de la condition sociale, de la condition historique de ces jeunes femmes et qui est une parole purement humaine et qui fait du bien dans ce temps que nous traversons, qui est un temps trouble, difficile et qui est brumeux, qui laisse penser qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance. Or, le spectacle, c'est une ode à l'espérance, c'est une ode à la joie de vivre, c'est une ode à la capacité des femmes de pouvoir entreprendre, de pouvoir participer à la construction d'un nouveau monde. Je pense que ça, c'est vraiment perçu par ceux qui viennent voir le spectacle. Et donc, le bouche à oreille, il est très fort. On est arrivé de jouer dans un théâtre où la veille de la, on fait une première représentation et on nous dit la salle du lendemain, ça n'a pas marché, il y a très peu de public. On joue la première représentation et le lendemain, la salle est archi comble parce que très vite, l'information se transmet et on a envie de participer à ce moment-là qui est au-delà d'être un moment de théâtre. C'est vraiment un moment de vie, un moment de partage et un moment où on a envie, en tant que spectateur, d'être là et de dire qu'on existe aussi au travers des récits qui sont portés sur le plateau.
C'est des récits sur un plateau, c'est aussi des femmes qui les portent. Ces 10 femmes ne sont pas des actrices, elles ne sont pas des professionnelles, elles sont des interprètes. Vous en avez fait des interprètes et des actrices. C'est la première fois pour beaucoup, en tous les cas d'entre elles, qu'elles montent sur les planches et elles ont une puissance volcanique et solaire effectivement très très impressionnante. Le spectacle repose sur les textes, sur les récits, sur la mise en scène que vous faites bien sûr, et beaucoup sur ces 10 femmes. Comment les avez-vous trouvées, Ahmed Madani ? Racontez-nous.
Alors, en fait, j'ai passé 2 années à organiser des petits ateliers de rencontres dans telle ou telle ville où je laissais entendre qu'il y avait une proposition de spectacle qui pourrait avoir lieu 2-3 ans plus tard. Et le principe, c'était de venir à ma rencontre en toute simplicité, sans avoir d'expérience théâtrale, sans avoir de désir particulier d'être une artiste, mais simplement avoir envie de prendre la parole.
Et avec des critères dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà, exactement. De dire, voilà, j'ai envie de dire des choses. J'ai envie de partager mon histoire avec d'autres. Et là, on se rencontrait en petits groupes. Et souvent, je me mettais presque en retrait. C'est-à-dire que j'écoutais, je lançais des sujets, j'écoutais, et on a eu des moments dans ces échanges d'une très grande puissance qui auraient pu presque faire des spectacles à eux seuls, juste ces moments-là, avec ces personnes-là précisément rassemblées. Donc on parle, et de temps en temps, on va sur le plateau, on va raconter une histoire à quelqu'un d'autre, on va imiter son père, imiter sa mère. Et puis, donc, je passe comme ça de groupe en groupe. Ça dure 2 ans. Et à un moment donné, il est temps de s'avancer pour lancer l'aventure proprement dite sur la scène. Et là, je reviens vers une trentaine d'entre elles. Donc, je n'ai rencontré plus d'une centaine. Je reviens vers une trentaine d'entre elles où je leur écris. Ben, j'ai écrit d'ailleurs à toutes. À toutes, j'ai écrit quelque chose et on a eu une correspondance. Mais une trentaine d'entre elles me semblaient peut-être plus... plus capable de s'embarquer avec moi dans cette aventure. Et donc, je leur ai écrit, il y a eu des échanges, et 15 sont restés à la fin. Et parmi les 15, 10 sont là, sur le plateau, aujourd'hui, sur le plateau du Théâtre de la Tempête.
Le spectacle a été créé à Sevran, semble-t-il. Ville sans théâtre.
Ouais. Ville sans théâtre, ville...
Mais avec une vie associative
magnifique.
Et culturelle
magnifique.
Puissante.
Et puis, oui, tout à fait. Et là, il y a vraiment... voilà, moi, je me souviens de la rencontre avec le maire de Sevran, où j'arrive dans
Stéphane
le conseil...
Stéphane Gatignon.
Oui, exactement. Où j'arrive dans le conseil municipal pour exposer cette idée, ce projet un peu farfelu. Et là, il y a un dialogue qui s'opère sur la culture, sur la dimension sociale, sur la pauvreté de cette ville et sur sa volonté, par la culture... de faire quelque chose, parce qu'on sait très bien que dans cet endroit-là, il y a aussi sur la question du terrorisme, enfin des choses comme ça, de gens qui partent vers la Syrie, etc. Il y a des problèmes réels, mais la culture est une arme. Et on s'est engagé dans ce projet, on a travaillé là-bas, on a fait plusieurs rencontres auditions, et le spectacle, il a été créé là-bas, avec un mélange dans le public extraordinaire, et vraiment un enthousiasme.
Mais il a été créé là-bas, dans une ville sans théâtre, il a été créé dans quel endroit ?
Dans une salle des fêtes, dans des conditions un petit peu précaires du point de vue technique, mais il y avait quand même un enthousiasme, une force. Et franchement, c'était une aventure de le démarrer là, dans un quartier populaire, dans une ville populaire, puis ensuite d'aller dans d'autres territoires de France, c'était extraordinaire. Et c'était, je pense, le ferment de ce projet-là.
Qui court encore, qui a été joué à la Maison des Métallos en novembre à Paris, alors qu'il avait déjà joué l'année dernière dans cet endroit-là.
Absolument.
Et puis qui est donc en ce moment au Théâtre de la Tempête. Restez avec nous, Ahmed Madani. On
avec
vous
plaisir.
Retrouve dans 2 minutes, juste après les titres du journal par Adrien Toffolé. Il est 7h30 sur France Culture. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour, un coup d'éclat aux États-Unis dans l'enquête sur l'ingérence russe. Michael Flynn, ex-conseiller à la sécurité nationale et proche de Donald Trump, a menti au FBI. Il a bien eu des échanges avec l'ambassadeur russe Sergei Kislyak. D'après plusieurs médias américains, le gendre du président Jared Kushner aurait même donné des instructions à Flynn. Ce dernier accepte désormais de coopérer pleinement avec la justice, ce qui devrait donner un grand coup d'accélérateur à l'enquête et porter une épée de Damoclès sur le mandat de Donald Trump. Au Honduras, regain de tension une semaine après l'élection présidentielle, élection qui a vu la défaite du président conservateur sortant, Juan Orlando Hernandez. Résultat en ce moment soumis à un décompte défavorable au vainqueur, Salvador Nasralla. Ses partisans manifestent quotidiennement. Depuis hier, au moins un manifestant est mort et plus de 20 personnes ont été blessées. 100 personnes ont été également arrêtées pour pillage. Le gouvernement vient de décréter l'état d'urgence. L'armée et la police ont des pouvoirs élargis. Les garanties constitutionnelles sont suspendues. Le temps de maîtriser les manifestations. Barack Obama en France, le 44e président des États-Unis et jeune semi-retraité, doit participer cet après-midi à une conférence organisée par le Club des Napoléons, un réseau consacré aux acteurs de l'innovation. Ça se passe à la Maison de la Radio, chez nous, pas la peine de chercher à venir, l'entrée n'est pas libre. Barack Obama profitera profitera aussi de son voyage pour parler climat avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, et rencontrer Emmanuel Macron et François Hollande. L'organisation du référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, Édouard Philippe est arrivé à Nouméa pour un voyage de 4 jours. Il s'agit pour le Premier ministre de rencontrer les dirigeants calédoniens et les responsables indépendantistes afin que le scrutin qui devrait se dérouler fin 2018 se déroule sans complication. Voilà les titres que nous développerons à 8h dans le journal et puis nous reviendrons également sur la condamnation hier de la fausse victime du Bataclan. Cet homme secouriste qui avait menti, s'était rapproché des associations de victimes, avait fait des fausses déclarations aux autorités après les attentats du 13 novembre. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme.
À tout à l'heure, 8h, donc, pour le développement complet de vos titres, Adrien Toffolet. Quant à nous, à suivre dans la prochaine demi-heure, la suite de notre entretien avec l'auteur et metteur en scène Ahmed Madani autour de son spectacle Flamme. Et à 7h40, la fabrique médiatique sur l'information des enfants avec David Groison de Phosphore et Laurence Fredet de Topo Magazine.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Maëlys Bestry.
La semaine prochaine, je vous emmène dans les salles enfumées des tripots et des casinos du monde entier. De Las Vegas à Macao, nous sonderons l'âme des parieurs qui se livrent au jeu du calcul et du hasard. L'économie, dans tout ce qu'elle a de plus improbable, rien ne va plus. Faites vos jeux.
Entendez-vous l'écho, du lundi au jeudi à 14h et sur franceculture.fr.
Ahmed Madani, tout à l'heure, nous parlions de la façon dont Flamme, la pièce qui tourne en ce moment en France et qui est jouée au Théâtre de la Tempête à Paris, avait un impact très fort sur le public, sur les publics d'ailleurs, qui venaient voir cette pièce. Est-ce que vous avez discuté avec les 10 comédiennes, les 10 interprètes de ce spectacle, de ce que ça leur a fait à elles de raconter cette histoire à partir de leur propre histoire, mise en scène et réécrite par vous, sur scène?
C'était le débat permanent pendant tout le travail, en vérité, jusqu'où on peut aller dans le fait de se livrer, de se raconter, et comment il est possible que ces histoires qui sont là, qui sont très vives, qui sont leur propre chair, puissent passer de l'autre côté de la rampe. Et l'écriture, elle permet cette chose-là. C'est vraiment par on passe du fait sociétal d'une certaine manière au symbolique, et c'est l'écriture qui le permet, et d'avoir cette distance dans le fond, et du coup c'est une protection pour elle, c'est-à-dire que dans le fond ce n'est plus elles qui sont réellement en scène, c'est d'autres personnes, et c'est des morceaux d'autres personnes qui ont participé à ces rencontres que j'ai faites pendant 2 ans, parce que du coup ces récits se mélangent aux récits d'autres femmes, et dans le fond ça leur permet à elles d'être là par une langue dans la vérité, parce que cette langue c'est à la fois la leur, d'une certaine manière par la scansion ou par le vocabulaire qu'elles peuvent parfois utiliser, mais c'est la langue de quelqu'un d'autre, c'est ma propre langue à moi en tant qu'auteur qui m'empare de tout ce matériau et qui au travers de ces diverses histoires, de ces diverses histoires, de ces divers récits, raconte ma propre histoire, dans le fond.
Une écriture qui est guidée, vous le dites souvent, Ahmed Madani, par Tolstoï et par l'idée que si on veut écrire l'universel, il faut commencer par parler de son propre village.
Hein,
donc effectivement de vous, puis d'autres, puis de ces femmes, puis d'autres femmes. Comment des histoires individuelles finalement peuvent parler à tous? Alors c'est vrai que du coup on croise Claude Lévi-Strauss qui côtoie Ulysse, Nina Simone, il y en a un petit peu partout. Voilà, il y a beaucoup de monde finalement dans ce spectacle Flamme. On parlait aussi tout à l'heure du spectacle comme d'un processus cathartique. Eh bien, écoutez déjà ce qu'en disent deux de vos actrices, Abi Ndiaye et Yasmina Gemzi. Elles étaient invitées de Joël Gayot le 29 janvier dernier dans une saison au théâtre.
Ah, franchement, ça m'a réveillé beaucoup de choses et ça m'a fait grandir en fait et oser. Enfin, ça m'a fait prendre confiance en moi et je me suis dit. Oui, en fait, je suis à ma place.
Et vous, Yasmina Gemzi?
Je dirais peut-être, pour moi, si c'est dans mon corps, je dirais que c'est plutôt un orgasme artistique. Ça va très très loin, mais c'est vraiment ça. Et il y a quelque chose d'une capacité de... Un mot qui même proche... Que je me rapproche du divin dans le sens où j'arrive à avoir une sensation de quelque chose de ni omniscient. Ou quand on est sur scène, je m'entends, je me vois, je vois les gens en face de moi et je les entends et je les sens. Je suis de sentir, ne serait-ce que le petit reniflement du bout de la salle à droite et la palpitation de la femme qui est à gauche, et moi, mon cœur qui bat avec eux, ça me rend, je monte d'un cran en termes d'humain, quoi.
On monte d'un cran en termes d'humain, dit votre comédienne Yasmina Gemzi, Ahmed Madani. C'est aussi ce que vous faites comme pari, c'est aussi ce que vous avez comme ambition avec cette pièce, avec ce projet donc de trilogie, un acte esthétique et politique à la fois, j'imagine.
Oui, oui, et d'une certaine manière très incertain, très fluctuant, et parce que la principale idée, c'est d'arriver au premier jour de la répétition. Première rencontre, sans qu'aucun mot soit écrit, et en partant ensemble dans une grande aventure où le spectacle va se construire avec le risque qu'il échoue, mais aussi qu'il réussisse.
Il y a une idée qu'au fond, le théâtre, c'est un lieu qui refait ce que, par ailleurs, la société défait. Vous allez jusque-là dans cette ambition?
En tout cas, d'interroger le sociétal, d'interroger notre monde par la poésie, par l'imaginaire et par l'empathie qu'on peut avoir en tant qu'être humain pour les autres êtres humains. Et donc de se positionner, non pas d'un point de vue sociologique, mais d'un point de vue humain, tout simplement.
Humain, artistique, théâtral, et c'est donc tout le projet de ces trois volets, hein, illumination, flamme. Donc illumination, c'est des garçons, flamme, c'est des filles, ça veut dire que le troisième volet sera mixte?
Ce sera, oui, les garçons et les filles, j'espère qu'on y parviendra. Et le projet s'appelle « Face à leur destin ».
Pink d'Aretha Franklin qu'on entend à un moment à un autre dans ce spectacle Flamme. Merci beaucoup Ahmed Madani d'être venu nous en parler quelques minutes ce matin. Flamme, c'est au Théâtre de la Tempête jusqu'au 17 décembre, mais après ça repart un peu partout hein, en tournée jusqu'en avril 2018. Cachan, Calais, Cergy-Pontoise, Pantin, Clermont-Lérault, Le Mans, Goussainville, Melun, Brétigny-sur-Orge, Aubervilliers et j'en passe. Il y a énormément de dates encore et puis le texte, les textes pour l'instant, Illumination et Flamme, sont édités chez Actes Sud Papier. Un grand merci encore.
Merci beaucoup Caroline.